Bien, nous pouvons donc peut-être entrer dans le chapitre des cannibales, quitte à revenir sur quelques éléments du rapport de Montaigne à son propre texte, tel qu'on les voit à partir de mentions dans l'exemplaire de Bordeaux. Donc ici, je suivrai surtout le texte de 1580, c'est-à-dire le premier, en mentionnant, évidemment, lorsque... Elle importe des additions ajoutées pour l'édition 1588 et puis des additions plus importantes qu'on rencontre sur l'exemplaire de Bordeaux. Dans le texte du chapitre des cannibales, on peut avoir ces trois couches de texte, mais la plus importante, la plus fondamentale, celle qui est en place comme matrice, c'est le texte de 1580. Donc je vais le lire et avec un certain nombre d'arrêts pour commenter le dé. Chapitre 31 des cannibales. Quand le roi Pyrrhus passa en Italie, après qu'il eut reconnu l'ordonnance de l'armée que les Romains lui envoyaient au-devant, « Je ne sais, dit-il, quels barbares sont ceux-ci, car les Grecs appelaient ainsi toutes les nations étrangères. Mais la disposition de cette armée que je vois n'est aucunement barbare. Autant en dire les Grecs de celle que Flaminius fit passer en leur pays. Voilà comment il se faut garder de s'attacher aux opinions vulgaires et les faut juger par la voie de la raison, non par la voie commune. » C'est le premier paragraphe et qui est un paragraphe qui commence avec deux références à Plutarque, tirées du Plutarque qu'a lu Montaigne et qui est la vie des hommes illustres dans la traduction de Amyot de 1559, une traduction qui va être le fondement de la circulation du texte de Plutarque en France et en Angleterre, puisque la traduction par North, de la traduction d'Amyot de Plutarque, va aussi être très présente et sans doute être aussi très présente dans la composition de pièces de Shakespeare. La vie de Pyrrhus, le roi grec passé en Italie et qui s'étonne de voir ou qui constate que l'armée romaine est loin de correspondre à ce qu'il attend d'un peuple barbare, et d'autre part la vie de Flaminius, qui lui est général romain en Grèce et dont l'armée suscite la remarque des Grecs, qui est semblable à celle de Pyrrhus. Et de là, à partir de ces deux exemples, la généralisation qui est cette opposition entre la méfiance à avoir vis-à-vis des opinions vulgaires, la voix commune, des idées reçues, et d'autre part la confiance que l'on doit accorder au seul jugement, un jugement de la raison fondé sur l'expérience, puisque Pyrrhus ou les Grecs, c'est en voyant l'armée romaine qu'on conclut qu'il y a là une discordance entre ce que l'on attend d'une catégorie communément employée comme celle de barbares et d'autre part la réalité d'une rencontre. D'emblée, on voit poser une question qui est une question importante pour comprendre les essais, c'est-à-dire la relation ambivalente, contradictoire de Montaigne avec la technique intellectuelle dominante de son temps, c'est-à-dire les lieux communs. Le fait que l'on extrait des textes, à la fois des exemples qui peuvent être insérés dans le discours, et en même temps que ces exemples permettent de construire des vérités universelles. Et on voit tout de suite l'ambiguïté ou l'ambivalence, puisque d'une part, Montaigne organise ce premier, enfin, dans les éditions modernes, ce qui est un premier paragraphe. Il faut rappeler qu'en 1580, il n'y a aucun paragraphe, donc le texte est en continuité. Mais ce premier temps de son essai est organisé à partir de cette contradiction entre un mode de raisonnement qui pourrait être celui des lieux communs, à partir de cas, construire une vérité générale, et en même temps, c'est justement contre la forme vulgaire ou commune de cette vérité générale que la raison doit exercer sa capacité de jugement. En 1500, dans l'exemplaire de Bordeaux, Montaigne ajoute un troisième exemple, puisqu'après avoir dit « autant en dire les Grecs de celles que Flaminius fit passer en leur pays », et Philippus, voyant d'un tertre l'ordre et distribution du camp roman en son royaume, sous Publius Sulpicius Galba, un troisième exemple qui renvoie à la même idée que de l'ordre qui est celui des armées ou des camps romains et qui est en disjonction avec la voie commune qui fait que pour les Grecs, tout étranger, y compris les Romains, est un barbare. Ce point de départ est pour Montaigne la manière d'amener ce qui va être la première information qui va nourrir et bâtir l'essai. J'ai eu longtemps avec moi un homme qui avait demeuré 10 ou 12 ans en cet autre monde qui a été découvert en notre siècle en l'endroit où Villegagnon prit terre qu'il surnomma la France Antarctique. Et là, on est devant la poursuite du raisonnement commencé, c'est-à-dire un témoignage d'une expérience, les 10 ou 12 ans de cet homme, marin ou marchand, que Montaigne a eu près de lui, et qui va donner, accréditer la description de ce monde nouveau, en l'occurrence la France Antarctique, c'est-à-dire le Brésil, à partir du témoignage d'une expérience vécue. On est ici avec cet autre monde qui a été découvert en notre siècle, en l'endroit où Villegagnon prit terre, qu'il surnomma la France Antarctique, devant la présence dans le texte de Montaigne, d'un autre texte, et d'une histoire qui est abolie, morte au moment où il écrit, mais qui reste forte dans la mémoire. Alors cet autre texte, c'est le premier livre publié qui porte dans son titre cette dénomination de la France Antarctique. C'est le livre de André Thévet, un franciscain, qui a séjourné peu de temps, mais à peu près une année au Brésil, et qui se fait l'écho, parfois il se dira l'inventeur, de cette dénomination de la France Antarctique. Le livre de Thévet, qui a été publié en 1557 et qu'on peut retrouver dans une réédition qui en a été faite par Franck Listringant chez Chandaigne. Ce livre publié en 1557 avait pour titre « Les singularités de la France Antarctique, nommée Amérique, et de plusieurs terres et îles découvertes de notre temps ». C'est la première fois qu'apparaît dans un ouvrage imprimé cette dénomination de France Antarctique, non seulement à la page de titre, mais au chapitre 24, de notre arrivée à la France Antarctique, autrement Amérique. Et on voit l'ambivalence du terme Amérique dans ces livres, ou dans ce livre, puisque, d'une part, le terme peut désigner la totalité du Nouveau Monde. Et Thévet se fait l'écho de cela lorsqu'il dit l'Amérique du nom de celui qu'il a premièrement découverte, nommé Amérique Vespucci, donc l'idée classique de l'attribution du nom par un des explorateurs dans un voyage de 1497 d'Amerigo Vespucci, mais aussi un sens beaucoup plus restreint, comme dans le titre du livre ou dans « De notre arrivée à la France Antarctique, autrement Amérique », c'est-à-dire seulement le Brésil et cette partie infime du Brésil où Villegagnon a pris terre, comme dit Montaigne. Donc un écho d'un titre, d'un livre, les singularités de la France antarctique de Thévet de 1557. Mais derrière cela, évidemment, la présence d'une histoire qu'il faut rappeler, non seulement pour comprendre les scènes Montaigne, mais pour comprendre les matériaux que Montaigne incorpore dans son essai. Cette histoire, c'est une expédition voulue par l'amiral de Coligny, confiée à ce noble Villegagnon en 1555, et qui a un double but. Le premier but, c'est une visée de politique coloniale française portée par Coligny et qui veut, en quelque sorte, concurrencer les présences espagnoles ou portugaises dans ce nouveau monde, et en particulier là où cette présence est peut-être la plus lâche ou la plus vulnérable, c'est-à-dire sur les côtes du Brésil, d'autant qu'il y a une expérience déjà acquise du rapport entre la France et les tribus indienne du Brésil à travers le commerce du bois qui a été ouvert depuis le début du XVIe siècle par des marchands et des marins normands. Donc une visée coloniale de concurrence avec l'Espagne et le Portugal. Et d'autre part, un projet de colonisation qui est fondé en 1550 sur l'idée qu'il est possible encore de maintenir la paix et l'unité religieuse. C'est-à-dire ce moment où les identités opposées catholiques, protestants ne sont pas totalement cristallisées. Le choix de Villegagnon est tout à fait symptomatique, puisque Villegagnon, comme le dit Lestringant, est placé entre deux dogmes, c'est-à-dire il est catholique, mais il a des sympathies, une attirance pour un certain nombre des idées de la Réforme. Ce qui est d'ailleurs aussi, à l'époque, le cas de André Thévet, le franciscain, qui est attiré par les nouveautés, pour reprendre le mot tout à l'heure de Montaigne, et qui a un réseau d'amis qui sont des amis réformés. Et par rapport à la suite de l'histoire dans laquelle Thévet va incarner l'orthodoxie catholique contre les protestants, la situation du milieu des années 1550 est différente. C'est un moment où Coligny espère encore une concorde religieuse, et le projet de colonisation pourrait en être une figure exemplaire. Donc de là, la chronologie des événements, le départ le 14 août 1555 d'une expédition dirigée par Villegagnon, qui arrive en novembre sur les côtes du Brésil, au Cabo Frio, dans la baie de Guanabara, c'est-à-dire la baie de Rio de Janeiro, et pratiquement immédiatement la construction du fort Coligny dans ce qu'on appelle aujourd'hui Ilha de Villegagnon, qui est très proche de, pour ceux qui connaissent Rio, encore relié à l'aéroport de Santos Dumont. Et Thévet est l'aumônier de cette expédition, mais il tombe malade assez rapidement et retourne en France à la fin de janvier 1556. En même temps, l'installation de Villegagnon continue et elle est marquée en février 1556 par une révolte de ceux qui l'avaient aussi inclus dans son entreprise, pas seulement ceux qui l'ont suivi dans l'expédition, mais aussi ceux que l'on appelle les truchements, c'est-à-dire des marins ou des matelots normands qui avaient l'habitude du commerce avec les tribus indiennes, et en particulier du commerce du bois, et qui aussi avaient appris à converser avec les Indiens dans leur langue, c'est-à-dire donc le nom donc de truchement. Et le deuxième épisode de cette histoire, le premier étant l'expédition de Villegagnon, la présence de Thévet, le retour de Thévet dès le début de 1556, le deuxième épisode, c'est toujours dans la même idée d'une possible concorde religieuse transportée dans la terre d'Amérique, c'est le fait que Villegagnon demande à Calvin de lui envoyer une seconde expédition. Et en novembre 1556, 14 calvinistes, dont deux pasteurs, l'un qui s'appelle Richer et l'autre qui s'appelle Chartier, partent avec un certain nombre d'artisans, dont un cordonnier, Jean de Léry, qu'on retrouvera dans cette histoire. Et ils arrivent le 7 mars 1557 dans la baie de Guanabara. Et c'est là où le conflit va détruire le rêve de la concorde religieuse, et en particulier autour de la célébration de la messe ou de la scène. Le Villegagnon, en fait, se montrant très réticent par rapport à la définition réformée de la scène et attaché de manière assez confuse, d'ailleurs, à l'idée plus classique catholique de la messe. La rupture existe, les protestants sont expulsés, ils vont se réfugier de l'île sur la terre ferme, et finalement, la plupart vont rentrer en Europe à partir du 4 janvier 1558, et ils arrivent en mai 1558, sauf 4 ou 5 qui restent, qui retournent dans l'île et qui, refusant de se convertir au catholicisme, comme protestants, sont exécutés par Villegagnon. Et l'épisode de la France antarctique trouve sa fin peu de temps après. Villegagnon rentre en France. Villegagnon rentre en France en 1559, et en 1560, au mois de mars, les troupes portugaises s'emparent de Fort Coligny et à jamais disparaît donc cet épisode français de la colonisation du Brésil. On voit donc que quand Montaigne écrit, dans les années 1570, voire, dans les fins des années 1570, la France antarctique a disparu depuis plus d'une dizaine d'années. Mais la dénomination a été fixée avec le livre de Thévet de 1557, « Les singularités de la France antarctique ». On peut mener une analyse pour voir comment cette dénomination que Montaigne reprend ici est absente avant le texte de Thévet, pourtant dans des textes assez proches. D'une part, très récemment, les éditions Artaud ont republié une magnifique édition d'un atlas qui est intitulé « Cosmographie universelle selon les navigateurs tant ancien que moderne, et c'est un atlas qui a été établi par Guillaume Le Testu, qui était un pilote, cartographe normand, habitué au voyage et au commerce avec le Brésil. On est dans une double tradition, c'est-à-dire la tradition normande du commerce de bois de Brésil, et d'autre part dans la tradition cartographique d'un atelier normand qui a d'ailleurs utilisé le savoir de pilotes portugais qui ont été enrôlés ou qui ont étaient des transfuges pour travailler. Et il y a une série de cartes ou d'atlas qui sont produits par cet atelier normand. Ici, il s'agit d'un magnifique atlas offert à Coligny en avril 1556, c'est-à-dire en rapport avec, évidemment, l'entreprise de la colonisation et de la France antarctique. Et on y voit ici une carte qui est au folio 44, une partie de l'Amérique, c'est le commentaire qui en est donné, une partie de l'Amérique où les régions tant du Brésil, cannibale, mais cannibale au sens d'un espace qui est celui du nord-est brésilien, que du royaume de Prat, c'est-à-dire le Rio de la Plata. Et sur la carte elle-même, les dénominations sont partie des cannibales et terre du Brésil. L'atlas est intéressant aussi par l'iconographie, parce que d'une part, il a une iconographie qui renvoie à l'arrivée des Français, puisqu'on y voit la bannière portugaise et aussi une bannière aux armes du roi de France. Je rappelle que l'expédition de Villegagnon est arrivée en novembre 1555 au Brésil, et donc cet atlas est offert en avril 1556, mais enregistre déjà cette velléité ou volonté de présence, de colonisation française. Et puis, d'autre part, on y trouve une iconographie qui est représentant des Indiens, avec les traits qui vont devenir fondamentaux dans la description de ce monde, chez Montaigne et chez d'autres. D'une part, la nudité des Indiens, d'autre part, l'affrontement guerrier, et puis le découpage d'un prisonnier qui donc ouvre à ce que, dans le texte du commentaire, est dit comme des peuples malins et mauvais mangeant chair humaine. Et la question de l'anthropophagie, du cannibalisme, est déjà posée par cette carte de l'Atlas de Guillaume le Testu. Mais pas de France Antarctique comme dénomination. Pas plus d'ailleurs que dans le deuxième document, qui est le premier récit de l'expédition de Villegagnon, qui est un petit livre publié en 1557. Avant le livre de Thévet, et qui est la copie de quelques lettres sur la navigation du chevalier de Villegagnon en terre de l'Amérique, outre l'équinoxiale, jusque sous le tropique de Capricorne, contenant sommairement les fortunes encourues en ce voyage et les mœurs et façons de vivre des sauvages du pays. Et ce texte, qui a la forme de deux lettres, a été rédigé par le pilote de navire de l'expédition de Villegagnon, qui a pour nom Nicolas Barré. Et on y trouve aussi une mention du cannibalisme des Indiens du Brésil, où il décrit le prisonnier tué à coups de masse, ensuite démembré et cuit. Et ils le mangent avec tant de plaisir qu'ils disent qu'il semble ambroisie ou nectar. C'est une lettre du 1er février 1555, donc très peu de temps, 1556, donc c'est-à-dire très peu de temps après l'arrivée au Brésil. Donc, Montaigne, clairement, se réfère à Thévet lorsqu'il emploie l'expression de la France antarctique, puisque c'est Thévet qui, sinon, est l'inventeur, mais du moins est celui qui a fait circuler cette dénomination de cette partie de l'Amérique et qui était celle où Villegagnon avait pris terre. Montaigne entre à partir de là dans un commentaire qui va s'éloigner temporairement de la France antarctique pour considérer la découverte de l'Amérique en son entier. Cette découverte d'un pays infini semble être de considération. Je ne sais si je me puis répondre qu'il ne s'en fasse à l'avenir quelque autre, tant de personnages plus grands que nous ayant été trompés en cette-ci. J'ai peur que nous avons les yeux plus grands que le ventre et plus de curiosité que nous n'avons de capacité. Nous embrassons tout, mais nous n'étreignons que du vent. Donc ici, le point de départ, et qui va être un des trames de cet essai, c'est la confrontation entre des certitudes des modernes, mais qui peut-être ne sont mal assurées dans leur désir d'une curiosité sans capacité, et d'autre part, les erreurs des anciens, et en particulier les erreurs des anciens dans leur identification du Nouveau Monde. Ou plutôt, les erreurs qui reposeraient sur la reconnaissance dans certains textes des anciens de la présence du Nouveau Monde. Et Montaigne s'inscrit finalement dans une question qui a été fondamentale au cours du XVIe siècle. Les anciens connaissaient-ils le Nouveau Monde ? Les anciens connaissaient-ils l'Amérique ? Et les textes, dont les deux que citera Montaigne, qui servent de support à la controverse, sont sur ce thème-là, c'est-à-dire est-ce que, en fait, ce que dit Platon ou ce que dit Aristote ou le pseudo-Aristote d'une terre qui serait au-delà de l'Espagne est ou non correspondant avec la Terre nouvelle découverte, sinon par Amerigo Vespucci, au moins par Christophe Colomb. Et donc, du coup, la discussion que va ouvrir Montaigne est une discussion ordinaire, finalement, pour le XVIe siècle, sur cette idée, est-ce que les anciens ont connu la Terre qu'on a découverte, donc du coup redécouverte dans notre siècle, si, évidemment, on admet que la chronologie qui serait plutôt celle du XVIe sans référer directement aux expéditions ni de Colomb ni d'Amerigo Vespucci. Alors cette question posée, toujours le rapport entre les anciens et les modernes, les erreurs des anciens mais aussi les imprudences des modernes qui croient peut-être qu'on ne découvrira jamais une autre terre comparable, mais comme le dit Montaigne, je ne sais, et d'ailleurs en 1582 il modifie un peu l'écriture en disant « je ne sais si je me puis répondre que celle-ci soit encore la dernière qui se fera, cette découverte, tant les personnages plus grands que nous se sont trompés en l'autre. » Et à partir de cette dialectique entre anciens et modernes, il se réfère à deux des textes fondamentaux de cette controverse, l'un qui est le texte de Platon sur l'Atlantide et l'autre qui est le texte d'Aristote ou du pseudo-Aristote sur l'île que supposément les Carthaginois auraient découvert dans l'Atlantique. Alors, le texte de Platon, je peux le lire. Platon introduit Solon racontant avoir appris des prêtres de la ville de Saïs en Égypte que jadis et avant le déluge, il y avait une grande île nommée Atlantide, droit à la bouche du détroit de Gibraltar, qui tenait plus de pays que l'Afrique et l'Asie toutes deux ensemble, et que les rois de cette contrée-là, qui ne possédaient pas seulement cette île, mais s'étaient étendus dans la terre ferme si avant qu'ils tenaient de la largeur d'Afrique jusqu'en Égypte, et de la longueur de l'Europe jusqu'en la Toscane, entreprirent d'enjamber jusque sur l'Asie et subjuguer toutes les nations qui bordent la mer Méditerranée jusque au golfe de la mer Majeure, et pour cet effet, traversèrent les Espagnes, la Gaule, l'Italie et jusque dans la Grèce, où les Athéniens les soutinrent, mais que quelques temps après, et les Athéniens et eux et leur île furent engloutis par le déluge. Il est bien vraisemblable que cet extrême ravage d'eau et fait des changements étranges aux habitations de la terre, comme on tient que la mer a retranché la Sicile d'avec l'Italie, Chypre d'avec la Syrie, l'île de Négropont de la terre ferme, de la Boétie, et joint ailleurs les terres qui étaient divisées, comblant de limon et de sable les fosses d'entre deux. Mais il n'y a pas grande apparence que cette île soit ce monde nouveau que nous venons de découvrir, car elle touchait quasi l'Espagne, et ce serait un effet incroyable d'inondation de l'en avoir reculé comme elle est de plus de 1200 lieues. Outre ce que les navigations des modernes ont déjà presque découvert, que ce n'est point une île, mais terre ferme et continente, avec l'Inde orientale d'un côté et avec les terres qui sont sous les deux pôles d'autre part, ou, si elle en est séparée, que c'est d'un si petit détroit et intervalle qu'elle ne mérite pas d'être nommée île pour cela. Donc la reprise du texte de Platon sur l'Atlantide et la récusation de cette identification, donc un pas pris d'écart par rapport aux anciens, pour les trois raisons que vous avez entendues. D'une part, le monde nouveau est beaucoup plus éloigné de l'Espagne que supposément l'Atlantide. D'autre part, les découvertes ont montré qu'il ne s'agissait pas d'une île, mais d'une terre ferme, d'un entier continent. Et troisièmement, que cette nouvelle terre, ce monde nouveau, est plus proche de l'Inde orientale qu'il ne l'est que de l'Europe. Donc ça, c'est le texte de Platon et récusé par Montaigne comme indiquant que l'Atlantide pouvait être pour Platon ce que l'Amérique est pour les modernes. Le deuxième texte qu'il convoque, c'est le texte d'Aristote ou du pseudo-Aristote, je cite, « L'autre témoignage de l'Antiquité auquel on veut rapporter cette découverte est dans Aristote, au moins si ce petit livret des merveilles inouïes est à lui. » Et ici, il fait allusion à un livre qui s'appelle « De mirabilibus auscultationibus », c'est-à-dire en fait des ouï-dire merveilleux, le livre des merveilles inouïes, et qui est attribué à Aristote, mais qui est aussi et on le voit dès Montaigne, avec des doutes sur son attribution. Il raconte là, c'est Aristote ou pseudo-Aristote, que certains Carthaginois s'étant jetés au travers de la mer Atlantique, hors le détroit de Gibraltar, et navigué longtemps, avaient découvert enfin une grande île fertile, toute revêtue de bois et arrosée de grandes et profondes rivières, fort éloignées de toute terre ferme, et que, et autres depuis, attirés par la bonté et fertilité du terroir, s'y en allèrent avec leurs femmes et enfants et commencèrent à s'y habituer. Les seigneurs de Carthage, voyant que leur pays se dépeuplait peu à peu, firent défense expresse, sur peine de mort, que nul n'eût plus à aller là, et en chassèrent ses nouveaux habitants, craignant à ce que l'on dit que par succession de temps, ils ne vinssent à multiplier tellement qu'ils les supplantassent eux-mêmes et ruinassent leur état. Cette narration d'Aristote n'a non plus d'accord avec nos terres neuves. Ces deux textes, évidemment, sont tout à fait intéressants, et en particulier, ils sont d'autant plus intéressants pour comprendre comment Montaigne écrit ou dicte les essais qu'ils sont en fait des citations, dans certains cas absolument littérales, ni de Platon, ni de pseudo-Aristote, pas même dans leur traduction, mais d'un livre qui est celui de Girolamo Benzoni et qui a été traduit en 1579, et on l'a déjà rencontré puisqu'il participe puissamment de la construction de la Leyenda Negra anti-espagnole. Ce livre de Benzoni, dans sa traduction de 1579, par Urbain Chauveton, qui est un calviniste de Genève, a pour titre « Histoire nouvelle du Nouveau Monde », contenant en somme tout ce que les Huguenots ont fait jusqu'à présent aux Indes occidentales et le rude traitement qu'ils font à ces pauvres peuples-là. Et le texte originel est un texte donc italien, publié à Venise en 1565, « La Historia del Mondo Nuovo » de Girolamo Benzoni, et approprié, protestantisé, anti-espagnolisé par la traduction de Chauveton. Vous avez entendu ce qui est dans le titre et qui n'est pas du tout dans le titre italien. Tout ce que les Huguenots ont fait jusqu'à présent aux Indes, les Espagnols, pardon, ont fait jusqu'à présent aux Indes occidentales et le rude traitement qu'ils font à ces pauvres peuples-là, et un ajout d'un texte qui n'est pas dans Benzoni, puisque la page de titre indique « Ensemble, une petite histoire du massacre commis par les Espagnols sur quelques Français en Floride ». Et c'est une allusion à la poursuite dans les années 1560 du projet de la France antarctique, après sa catastrophique fin par l'arrivée de Ménem d'Essart et des Portugais, en Floride. Et il y a deux expéditions françaises, et l'une se termine par le massacre de ces colons français protestants par les Espagnols. Donc le livre de Benzoni est un livre qui participe de la légende noire, enfin de la critique de la légende noire, et que Montaigne lit de deux manières. Il peut le lire par rapport à son contenu. On retrouvera dans l'essai qui s'appelle « Des coches » dans le troisième livre quelque chose de la critique contre les destructions opérées dans les Indes occidentales. Mais il le lit aussi comme un répertoire tout près de textes que l'on peut citer, soit en les paraphrasant, mais de très près, soit en les recopiant littéralement. Dans le livre de Benzoni, la traduction par Urbain Chauveton de 1579, vous avez un discours sur le cinquième chapitre qui cite explicitement les deux textes de Platon et du pseudo-Aristote. Et on peut se livrer à l'exercice qui est, je vais le faire plus bref que le possible, mais une comparaison, une collation ligne à ligne montre que dans le deuxième cas, c'est-à-dire le cas du texte du pseudo-Aristote, ce que fait Montaigne, c'est une copie littérale avec cette réalité. On peut prendre par exemple cet exemple qui devient là. Vous vous rappelez, les seigneurs de Carthage, voyant que leur pays se dépeuplait, dans le texte de Benzoni traduit par Chauvetan, vous avez « Les seigneurs de Carthage, voyant que leur pays se dépeuplait peu à peu, firent défense expresse sur peine de mort, que nul n'eut plus à aller là, et en chassèrent ses nouveaux habitants, craignant à ce que l'on dit que par succession de temps, ils ne vinssent à multiplier tellement qu'ils les supplantassent eux-mêmes et ruinassent leur état. » C'est-à-dire ici, Montaigne, à quelques toutes petites différences près, copie le texte de Benzoni directement. Et dans le cas du texte sur Platon, on retrouverait la description lorsque j'avais cité « Il y avait là une grande île nommée Atlantique, droit à la bouche du détroit du Baltin ». Benzoni, dans traduction de Chauvetan, « C'est que jadis, il y avait une grande île nommée Atlantique, droit à la bouche de l'étroit de Gibraltar, qui tenait plus de pays que la Libye et l'Asie », ce que Montaigne transforme par « plus de pays que l'Afrique et l'Asie », et ne font toutes deux ensemble. Et que là-dedans, il y avait des grands royaumes et de fort puissants rois qui, pour lors, non seulement tenaient toute l'île, mais même, ayant ancré bien avant dans la terre ferme, possédaient de la largeur de l'Afrique jusqu'en Égypte et de la longueur de l'Europe jusqu'en Toscane, ce qui est exactement ce que Montaigne reprend. Donc, on a là une technique de composition des essais sur laquelle je vais terminer parce qu'elle nous renvoie à la question que je soulignais pour commencer. C'est-à-dire le rapport complexe, ambivalent de Montaigne avec la technique des lieux communs. D'un côté, il est clair que Montaigne se représente comme à distance des gestes qui caractérisent la technique des lieux communs. Je rappelle ce qu'elle est. Elle a été étudiée par Anthony Grafton, Anne Blair, William Sherman, c'est-à-dire on lit pour extraire et réutiliser. Et cette pratique se traduit par des gestes. Par exemple, les annotations manuscrites marginales qui indiquent des rubriques qui correspondent aux thématiques des textes que l'on veut extraire. Par exemple, la copie, parfois sur un support temporaire, des phrases, des sentences, ou des paraphrases de ce que l'on a extrait du livre lu. Ensuite, la réorganisation de ces fragments dans un ordre thématique qui est celui du cahier de lieux communs. Et in fine, la publication imprimée de recueils ready-made de lieux communs qui permettent évidemment d'augmenter le volume des lieux communs qu'un individu dont un individu peut disposer pour nourrir ses propres discours. Cette technique, qui est technique de réemploi, de réutilisation, à partir d'une décontextualisation, puisqu'on extrait du contexte où elle se trouve un fragment qui est recontextualisé dans un ordre thématique. Cette technique est évidemment la réponse à une exigence de la rhétorique de la Renaissance, c'est-à-dire la copia verborum acra rerum, donner des exemples, nourrir les textes de mots et de choses. Cette technique, elle est celle de tous les humanistes. Montaigne se représente lui-même à distance de cette technique, et en particulier dans le livre 1, chapitre 25, du pédantisme. Il écrit « Je m'en vais écorniflant, donc prenant le passage, la sauvette, par-ci, par-là, des livres, les sentences, qui me plaisent. Non pour les garder, car je n'ai pas de gardoir, mais pour les transporter en ce tuyau-ci, c'est-à-dire son propre livre, où, à vrai dire, elles ne sont plus miennes qu'en leur première place. » L'idée de « je n'ai pas de gardoir », gardoir renvoyant à ces cahiers ou livres de lieux communs, est bien une distance prise qui va avec d'autres éléments de la représentation de Montaigne par lui-même comme lecteur, c'est-à-dire abandonnant le livre lorsqu'il y a une difficulté, ne lisant jamais la nuit, ne donnant pas d'annotation marginale, puisqu'on a gardé à Bordeaux et à Cambridge un certain nombre des livres de Montaigne avec des traces manuscrites de sa lecture. Et ce ne sont pas les rubriques marginales que j'évoquais qui sont propres à la technique des lieux communs. Ce que fait parfois Montaigne, c'est un résumé final du livre en une page, au point que certains de ces résumés, pour trois livres ou moins, sont intégrés ensuite dans les essais. Donc il y a une pratique et une représentation de Montaigne qui est mise à distance de la technique humaniste par excellence, c'est-à-dire la technique des lieux communs, ce qui permet de corriger un peu les clichés habituels sur Montaigne, humaniste des humanistes. Du point de vue de sa pratique de lecture et de sa représentation comme lecteur, il est à distance, il veut marquer la différence. Et c'est pour ça que c'est dans l'essai du pédantisme qu'il introduit cette différence et qui renvoie, bien entendu, à la réalité du fait que les essais sont tissés de citations. Et je les ai passées, mais dans le passage qui concerne Platon, vous avez, dès l'édition de 1580, deux vers d'Horace dans l'ère poétique qui sont là donnés, et il ajoute, en 1588, pour l'édition parisienne, des trois vers de l'Énéide de Virgile. Donc, un tissu de citations, et on a vu plus encore une recopie quasi littérale de fragments entiers de livres. Mais ces deux éléments ne sont pas, chez Montaigne, liés à la technique classique des lieux communs. Elles sont liées à une sorte de copie ou paraphrase à livre ouvert. C'est-à-dire que dans sa bibliothèque, il consulte, sait que tel ou tel livre peut tenir les ressources qu'il recherche. Il n'y a pas d'intermédiaire par la rubrication du livre, par la confection thématique d'un cahier de lieu commun. Il y a directement, comme il le dit, le fait d'écornifler dans les livres les sentences qui lui plaisent et de les transporter immédiatement, sans médiation, dans son propre texte, ce qui peut amener à la citation des fragments de poèmes latins, et ce qui peut amener à ce qu'on a vu avec cette utilisation de Benzoni, quand les notes des éditeurs contemporains disent cette citation, ces citations de Platon et du pseudo-Aristote ont été médiatisées par la lecture de Benzoni, c'est un pas, mais insuffisant, dans la mesure où ce que l'on voit là, c'est un Montaigne qui copie textuellement des fragments entiers du livre, et qu'il le fait sans doute parce qu'il a ouvert sur la table ou sous ses yeux alors qu'il est en train de dicter les passages qui portent sur l'Atlantique, le passage qui porte sur l'île des Carthaginois, et qu'il est tout à fait licite, légitime, de les introduire sans mention du nom d'auteur dans son propre texte. Et on retrouverait la tension qui me paraît assez importante dans les essais, en cette, d'un côté, la singularisation, l'individualisation, la référence à la personne, au moi, et d'un autre côté, la place partagée entre plusieurs moi dans les essais, et d'autre part, cette indistinction entre l'écriture du moi et l'écriture des autres, puisque finalement, il fait sien ce que Benzoni a écrit, mais dit-il, finalement, celles-ci, ces sentences, ne sont pas plus miennes qu'en leur première place, sous le prétexte qu'elles sont entrées dans son livre. Donc je pense qu'il y a là un point intéressant sur l'articulation entre la distance de Montaigne par rapport à la technique des lieux communs et cependant le fait que les essais sont bâtis, construits, remplis par des citations, les unes données à des poètes latins dont Montaigne peut penser que son lecteur pourra les identifier, et d'autres, sans nécessairement qu'il y ait volonté de plagiat ou d'occultation, qui tissent le texte avec des fils et des trames qui viennent d'autres. Les deux dernières remarques sur cette première partie du commentaire, et vous verrez que l'essai se poursuit, donc pour la fois prochaine, j'essaierai d'aller droit à ce qui en serait le cœur de l'analyse, c'est-à-dire l'analyse de l'anthropophagie, du cannibalisme et les héritages sédimentés de textes préalables à Montaigne qu'on retrouve dans ce chapitre des essais. Les deux autres commentaires que je voudrais faire, c'est le fait que dans ce chapitre, le texte pour la quasi-totalité est un texte qui vient de 1580. C'est un texte que Montaigne a touché, a retouché assez peu pour l'édition de 1588. Mais entre ce que j'ai lu, qui est la citation de Benzoni du Platon, du Timée, et ce qui est la citation de Benzoni du pseudo-Aristote, dans ce livre des Ouï-dire inouïs, il y a dans l'édition de 1588 un ajout intéressant et qui est au moment où Montaigne a récusé l'idée que les inondations du déluge auraient pu séparer l'Atlantide du continent européen de telle manière que l'Atlantide pourrait être considéré comme l'Amérique ou l'Amérique comme l'Atlantique, après avoir récusé cette idée, il ajoute la chose suivante. Il semble qu'il y ait des mouvements naturels, les autres fiévreux, en ces grands corps comme au nôtre, c'est-à-dire les mers ou les fleuves. Quand je considère l'impression que ma rivière de Dordogne fait de mon temps vers la rive droite de sa descente et qu'en 20 ans, elle a tant gagné et dérobé le fondement à plusieurs bâtiments, je vois bien que c'est une agitation extraordinaire, car si elle fût toujours allée de ce train ou dût aller à l'avenir, la figure du monde serait renversée. Mais il leur prend des changements, tantôt elles s'épandent d'un côté, tantôt d'un autre, tantôt elles se contiennent. Je ne parle pas des soudaines inondations de quoi nous manions les causes. En Médoc, le long de la mer, mon frère, sieur d'Arsac, voit une sienne terre ensevelie sous les sables que la mer vomit devant elle. Le fait d'aucun bâtiment paraît encore. Ses rentes et domaines se sont échangés en packages bien maigres. Les habitants disent que depuis quelque temps, la mer se pousse si fort vers eux qu'ils ont perdu 4 lieues de terre. Ces sables sont ses fourriers. Et voyant de grandes montjoies d'arène, c'est-à-dire de grandes quantités de sable, mouvantes, qui marchent d'une demi-lieue devant elles et gagnent le pays. On voit qu'ici est introduite, sans un lien absolument nécessaire avec la description de Platon et la récusation de l'identité entre l'Atlantide et l'Amérique, quelque chose qui a à voir avec la preuve expérimentale, une autre « je » dans le discours. On a introduit pour commencer cet homme qui avait passé 10 ou 12 ans sur la terre du Brésil. Ici, Montaigne introduit un autre « je » témoin, qui est lui-même observant à la fois les variations du cours de la Dordogne avec ses changements, mais qui finalement se compensent et ne peuvent pas être comparables à ce qui aurait été nécessaire pour la séparation de l'Atlantide ou sa dérive par rapport à l'Espagne, et d'autre part, les inondations du Médoc à partir de son propre témoignage et d'autre part, du témoignage donné par son frère. On entre là dans un des points importants de cet essai ou de cette réflexion, c'est-à-dire le rapport entre le texte d'autorité et d'autre part, le témoignage fondé sur ce qu'on pourrait dire l'autopsie, la vision par soi-même des événements. Et ce jeu, là encore paradoxal, puisque évidemment Montaigne cite des autorités, parfois pour les récuser, parfois sans les mentionner comme telles, et donc fait habiter les essais par un tissu de références textuelles et en même temps pose dans celui-ci, mais comme dans beaucoup d'autres, l'absolue supériorité quant à l'accréditation, quant à la véracité du regard de ce que l'on a vu, l'homme qui a passé du temps au Brésil, où lui, Montaigne, observant le cours variable de la Dordogne. Cette idée d'une construction de la certification par l'autorité du regard à distance des autorités pourtant citées qui sont celles de la tradition textuelle. Alors pour terminer aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'autre dimension, c'est-à-dire la dimension du rapport entre Montaigne et son propre livre, très brièvement bien entendu, parce que dans l'exemplaire de Bordeaux, il a utilisé le verso de la page de titre pour un texte intéressant, pas toujours cité ou pas toujours commenté, et qui a pour titre les qui a pour contenu des recommandations adressées à l'imprimeur. Et là aussi, on trouverait peut-être une évolution ou peut-être une tension dans la manière dont Montaigne se situe par rapport à la forme matérielle de son texte. On a vu qu'il était impliqué dans les coûts de l'édition, qu'il pouvait être impliqué dans les pratiques de la correction, qu'il avait pour souci le rapport entre la matérialité du texte, la législation royale et puis sa propre composition. Mais il y avait dans l'affirmation traditionnelle, qu'on retrouve d'ailleurs dans le texte de 1588, une distance prise par rapport à ce que nous appelons la matérialité du texte, c'est-à-dire les formes d'inscription du texte sur la page. Je cite, c'est dans l'essai 9, livre 3 de la Vanité. « Certes, je rends grâce à des honnêtes hommes qui daignent prendre en bonne part mes faibles efforts. » Et il parle de l'atelier typographique. « Il n'est lieu où les fautes de la façon paraissent tant qu'en une matière qui de soi n'a point de recommandation. N'en t'en prends pas à moi, lecteur, de celle qui se coule ici par la fantaisie ou inadvertance d'autrui. Chaque matin, chaque ouvrier apporte les siennes. Je ne me mêle ni d'orthographe et ordonne seulement qu'ils suivent l'ancienne, ni de la ponctuation. Je suis peu expert en l'un et en l'autre. Où ils rompent du tout le sens, je m'en donne peu de peine, car au moins ils me déchargent, mais où ils en substituent un faux, comme ils font si souvent, et me détournent à leur conception, ils me ruinent. Toutefois, quand la sentence n'est forte à ma mesure, un honnête homme la doit refuser pour mienne. Qui connaîtra combien je suis peu laborieux, combien je suis fait à ma mode, croira facilement que je redicterai plus volontiers encore autant d'essais que de m'assujettir à re-suivre ceci pour cette puérile correction. » Donc, en 1588, on voit que Montaigne, d'une part, évidemment déplore les erreurs typographiques qui peuvent corrompre son texte, mais que d'autre part, il ne se préoccupe pas, faute de compétences, ni d'orthographe, graphie des mots, ni de ponctuation, que d'autre part, il fait confiance au lecteur pour comprendre que certaines phrases incohérentes ne peuvent pas être de lui, et troisièmement, qu'il ne veut pas perdre son temps à corriger ou réécrire ou redicter, et que finalement, il laisse au livre, le fait de la responsabilité de sa rencontre avec le lecteur. On aurait donc une attitude très en retrait par rapport à ce qui est le contrôle de la forme matérielle imprimée du texte. Et c'est pour ça que dans l'exemplaire de Bordeaux, le texte manuscrit ajouté qui est adressé au futur imprimeur qui va réimprimer ou rééditer l'édition de 1588, marque une rupture, puisqu'il énumère un certain nombre d'indications. J'en retiens seulement quatre. La première, elle porte sur, finalement, la régularité graphique. Je cite, « Ne mettez en grandes lettres que les noms propres, ou au moins ne diversifiez pas comme en cet exemplaire, qu'un même mot soit tantôt en grandes lettres, tantôt en petites. C'est sur l'utilisation des capitales, non pas un thème que j'ai parfois évoqué, qui est l'utilisation des capitales pour la première lettre d'un mot qui n'est pas le premier de la phrase ou qui n'est pas une institution et qui peut être tenu pour un signe de ponctuation, mais ici l'idée d'une incohérence entre l'impression du même mot, tantôt en tout entier, en capital, ou tantôt en minuscule. Donc un souci finalement de visibilité graphique, de régularité graphique. Deuxième remarque, la prose latine, grecque ou autre, étrangère, il la faut mettre parmi la prose française en caractères différents. Les vers à part et les placer selon leur nature, les demi-vers sur les commencements au bout de la ligne de la fin, les demi-vers les commençant au bout de la ligne, la fin sur la fin, en cet exemplaire, il y a mille fautes en tout cela. C'est-à-dire l'idée qu'avec cette abondance et même accrue de citations, pour ce qui est de la prose, on doit la maintenir dans le flux de la phrase, éventuellement ou même nécessairement en passant d'un autre caractère, mais pour les vers, il faut les détacher, leur donner une forme adéquate de présentation. Troisième remarque très importante, là, c'est sur la ponctuation. Outre les corrections qui sont en cet exemplaire, il y a infini autre affaire de quoi l'imprimeur se pourra aviser, mais regardez de près aux points qui sont en ce style de grande importance. Donc, les points. Et pourquoi ? Autre indication, c'est un langage coupé, qu'il n'y épargne les points et lettres majuscules. Moi-même ai failli souvent à les ôter et à mettre des commas où il fallait un point. C'est-à-dire que, pour Montaigne, cet intérêt pour la ponctuation, théoriquement dénié par l'essai que j'ai lu préalablement, a à voir avec le respect nécessaire pour une esthétique qui est celle du style coupé, c'est-à-dire avec un rythme de césure forte, forte parce qu'elles sont nombreuses, et forte parce que là où on a employé dans les éditions, y compris jusqu'en 1588, et y compris par lui-même, des commas, c'est-à-dire la virgule, il faut introduire le point et donc la lettre capitale qui commence la phrase suivante, c'est-à-dire en fait un renforcement d'une ponctuation de césure, ce qui est à la fois la volonté d'une esthétique de ce style qui juxtapose, et tous les termes qu'il emploie sur l'idée de marqueterie renvoient à cette idée de juxtaposition de fragments plus courts, et d'autre part, qui peut renvoyer à cette oralité implicite ou de destination, qui est celle des essais, puisque la multiplication des points finaux, plus l'accent insistant beaucoup sur les lettres majuscules qui vont les accompagner, sont des scansions, comme dans une partition, qui permettent d'imaginer une oralité dans un silence de lecture ou qui permettent de lire à haute voix, correctement, le texte en marquant bien ces scansions fortes qui sont données par la ponctuation. Et l'on voit que son attitude à la fois reprend quelque chose de la tradition et en reprend un peu quelque chose de son essai que j'ai cité, c'est-à-dire le fait que les imprimeurs ont responsabilité. Il y a infini autre correction à faire de quoi l'imprimeur se pourra aviser. Mais en même temps, cette délégation de responsabilité sur la forme matérielle du texte, dans cette note manuscrite, elle est plus limitée, plus contrainte, plus restreinte. Il faut que l'imprimeur soit persuadé, perçoive l'originalité de ce style coupé et du coup, le ponctue typographiquement en accord avec cette intention esthétique. Donc, comme vous le voyez, le commentaire de ce livre 31 est à la fois, enfin, ce chapitre 31 est à la fois pour moi la manière d'entrer peut-être différemment dans un des textes les plus souvent commenté, et on va arriver à son cœur la fois prochaine avec les passages sur les Indiens, leur nudité, leur guerre et leur cannibalisme, et en même temps est une manière aussi peut-être de montrer que derrière des évidences ou des anachronismes par rapport à la composition même des essais et par rapport à leur publication, on peut et où on doit entrer dans ce lien indissociable entre des conditions juridiques de publication, des pratiques d'édition et des formes d'invention scripturaire. Et c'est cette articulation, me semble-t-il, qui rend pertinent la rencontre entre critique textuelle et histoire culturelle. Merci.